Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
J'espère que vous avez pris vos gourdes. Hein. Ah. On reçoit quelqu'un qui sauve la planète aujourd'hui.
Ah, Juliette Binoche.
C'est pas pour gourdes, il dit ça.
Mais non, on reçoit l'un des plus grands climatologues au monde.
Claude Allègre.
Les gars, sérieusement, là, j'aimerais que vous sentiez un peu concernés.
Bah, de toute façon, on le sait, on va tous mourir.
Et après moi, le déluge. Ouais,
bah, génial, bah quoi, on se jette dans la Seine.
Non, faut pas faire ça. Si on boit un verre d'eau de la Seine, on y passe direct.
Ouais, là. Alors, on reçoit Jean Jouzel, climatologue, glaciologue, ex-expert du GIEC à l'ONU, directeur de recherche au CEA.
Ah, carrément, un agent secret.
Quoi?
De toute façon, moi, le réchauffement climatique, j'ai toujours dit que c'était un coup de la CIA.
Le CEA, commissariat à l'énergie atomique.
Oh, on est là, on va lancer la bombe atomique.
Bah, quitte à tous mourir, de toute façon, autant le faire ensemble.
Alors, dans son livre Finance, climat, réveillez-vous, Jean Jouzel, il dit tout le contraire.
Eh ben moi je dis qu'il bluffe.
Il explique que les solutions sont là, qu'il suffit de les appliquer.
Bah oui, mais le Bangladesh, il risque d'être submergé par la montée des eaux.
Jean Jouzel propose plein de choses, comme la création d'une banque européenne.
Eh ben bandez les banquiers d'abord.
Une banque européenne du climat.
Une banque européenne. Alors s'il était bon en géographie, on aurait peut-être une chance d'être sauvé.
Oh, mais pourquoi?
Mais parce que le Bangladesh, c'est pas en Europe.
Oh putain, je vais exploser.
Mais on va tous mourir de toute façon.
Voilà.
Ce matin, vous m'échauffez, mais comme c'est pas permis.
Ah bah non, ça tu peux pas.
Non.
Bah
si tu t'échauffes pour nous convaincre qu'il faut éviter le réchauffement climatique, c'est contre-productif.
Je m'en fous. Je vais tous vous arroser au glyphosate, puis ça va me détendre.
Il va pas être content, Jean-José, hein. Il va gueuler. Hein.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans le centre de tri de la radio publique, où l'on recycle l'actualité pour en faire de la blague.
Eh bien sûr.
En visite en France, le président chinois parle notamment du climat avec le président français, qui tentera toutefois de lui refourguer quelques Airbus. Qu'est-ce que la planète peut attendre de cette rencontre? Comment Emmanuel Macron peut-il aborder le sujet avec Xi Jinping?
Ils sont récalcitrants. C'est face de quetch.
L'écologie ne s'enseigne pas à l'école, ou alors très peu, dans les cours de SVT, alors que l'écologie est aussi une discipline économique, physique ou philosophique. Alors, est-ce une lacune du programme scolaire?
Mange de l'herbe, c'est très bien.
C'est super, c'est très bon, c'est pour bon. L'éducation, ça mange de l'herbe.
Le réchauffement nous menace, le pollueur-payeur jongle avec les taxes, le pic de pollution nous asphyxie. Face au péril et aux mesures punitives, existe-t-il aussi une écologie heureuse?
De toute façon, faut pas rêver, on va tous crever.
Voilà. Lui est en train de réaliser que dans le moule frites, les moules vont disparaître avant les frites. Bonjour Alex Vizorek.
Tant qu'il y a de la bière, bonjour Charline Vanhoenacker et bien belle équipe. En ce lundi à 17h20, l'homme qui est capable de défendre toutes les causes indéfendables, il est donc le meilleur avocat de lui-même, c'est Pablo Mira, bonjour.
Salut Alex, salut Charline. Si je vous dis les G-Squad, alliage, les To Be Free, oui, vous l'avez deviné, on va parler aujourd'hui des maladies et notamment de la méfiance des Français envers les vaccins. À tout à l'heure.
Très bien, 17h30, alors je peux vous dire qu'aujourd'hui, sa tête risque de tomber pour abus de biens sociaux. Il est revenu d'un salon avec pas moins 4 bouteilles de pinard différentes. Le Gérard Depardieu de la chronique, c'est Guillaume Meurice.
Bonjour, je vais dire que du bien. Non, je vais vous parler des conclusions du grand débat. Je vais vous parler des régions françaises aujourd'hui pour essayer de vous résumer un petit peu l'esprit français.
Pêche, chasse, champignons, gueuleton, ça va aller.
Voilà, la nouvelle devise de la France, ça me paraît pas mal.
Et enfin, à 17h40, notre invitée va être très contente car elle est aussi glaciologue. Elle aime beaucoup les glaçons dans son chardonnay. C'est Juliette Pardot, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
D'un livre écrit par un fils sur son père, sauf que et le père et le fils sont hyper célèbres.
Et voici celui qui a promis de nous réveiller. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Oui, Jean Jouzel.
Oui.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Jean Jouzel. Merci d'être avec nous. Nous sommes très flattés de votre présence et très curieux d'écouter ce que vous avez à nous raconter, notamment que vous racontez dans cet ouvrage qui s'intitule Finance, climat, réveillez-vous. Les solutions sont là, paru aux éditions Indigènes. Un ouvrage coécrit avec Anne Hessel, qui est la fille de Stéphane Hessel, oui. Et aussi avec Pierre Laroutourou. Alors Jean Jouzel, je rappelle évidemment que vous avez été vice-président du GIEC au moment
du
où le
groupe.
scientifique ouais, du GIEC.
Exactement, oui. Au moment où il a reçu le prix Nobel, vous êtes donc prix Nobel, médaille d'or du CNRS. C'est celui qui court le plus vite chez les scientifiques.
Ça m'a bien fait plaisir. Non, c'est vrai qu'en France, c'est quelque chose de bien. Vous dire,
bien sûr.
Médaille d'or du CNRS.
Jean Jouzel. Donc, dans cet ouvrage, vous commencez par un constat. Vous vous adressez à ceux même qui pourraient être encore sceptiques en expliquant que le nombre de catastrophes climatiques a plus que doublé en 30 ans et que si on ne parvient pas à limiter le réchauffement climatique, vous donnez plein d'exemples argumentés. En Afrique, les récoltes sont amenées à baisser de moitié alors que la population va doubler. Les canicules qui causent déjà 3000 décès par an en Europe vont provoquer 150 000 décès par an demain, etc. Donc, on comprend bien qu'on va droit dans le mur en klaxonnant. On connaît certaines des solutions, l'isolation de nos logements, les transports, etc. Ça s'appelle la transition écologique. Et vous dites, pour ça, on peut le faire. On peut le faire avec 1000 milliards destinés au climat. Je me dis, ça y est, il a pris un coup de chaud, Jean Jouzel.
Non. Oui, on peut le faire. D'abord, oui, c'est bon, le constat, Charline. D'abord, il suffit de regarder ce qui s'est passé, ce qui passe en Mozambique actuellement. Je veux dire que il y a des régions de cette planète où, après des sécheresses très difficiles, l'Afrique australe essuie maintenant un cyclone extrêmement violent avec... je crois 700 morts, 800 000, il y a 800 000 personnes qui sont vraiment sans abri, au moins, disons, provisoirement. Donc, il y a ces problèmes de réchauffement climatique. À chaque fois, nous sommes très prudents pour, disons, associer un événement particulier à, disons, aux activités humaines. Mais c'est clair que, disons, les extrêmes climatiques deviennent plus intenses et ils risquent de devenir encore plus intenses. Et c'est un des problèmes en termes de conséquences. Oui, il y a effectivement des solutions. Il y a des solutions.
On connaît la cause. Mettre la finance à contribution, vous dites, créer un pacte européen, climat-emploi. Vous avez une solution concrète, c'est de créer une banque européenne du climat. Ça peut se faire comme ça?
Oui, enfin, comme ça, ça pourrait se faire s'il y avait une véritable volonté politique au niveau européen probablement en moins d'une année. Je dirais, on a eu l'exemple de la Bird, la Banque Européenne de Reconstruction, qui s'est construite en moins d'un an.
Quand Mitterrand et Kohl ont décidé de la monter, ça a mis 6 mois.
Voilà, et puis quand on regarde, disons, avec la Banque Européenne d'Investissement, ce serait relativement facile de créer une filiale de cette banque. On parle de banque pour le climat et pour la biodiversité. C'est cette idée, disons, a aussi été avancée par Emmanuel Macron, la création dans sa tribune aux Européens. Il a avancé cette idée d'une banque européenne pour le climat, mais dans notre plan, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée d'un budget européen, ce qui est important, et aussi l'idée d'un traité. Parce qu'il faut, je pense qu'il manque beaucoup, ce qui manque beaucoup, c'est quand même la continuité. Disons que les entreprises, ceux qui veulent s'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique, aiment bien savoir à quelle sauce ils vont être traités dans 5 ans, dans 10 ans, en termes de, de dynamique économique. Parce que c'est bien ça dont il s'agit, Charline. C'est le fait que nous pensons profondément, et nous reviendrons pour le moment, que faire cette transition énergétique, c'est quand même le dynamisme économique d'un pays, de l'Europe, qui est à la clé ici. Ce n'est pas le contraire. Disons, beaucoup de gens pensent que faire cette transition, c'est un recul du point de vue économique. Nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls, que c'est au contraire la seule façon de développer harmonieusement notre planète et nos civilisations.
Et c'est à l'Europe de le faire, parce qu'on a bien compris que les États-Unis avec Trump, ça n'est pas dans ce sens-là. L'Afrique a d'autres soucis.
La Chine, alors on va parler de la Chine.
Oui, on va en parler tout à l'heure. Vous l'avez dit à Emmanuel Macron la semaine dernière, encore vous étiez parmi les 60 intellectuels qu'il a reçus à l'Élysée.
Oui, effectivement.
Vous avez eu le temps de lui en parler ?
Oui, mon intervention portait effectivement sur cette proposition d'une création d'une banque européenne pour le climat. Oui, effectivement, donc je l'ai dit. Donc il a redit qu'il avait repris notre idée déjà, donc dans la réponse évidemment il n'a pas répondu clairement à disons la façon dont il le ferait, mais il a simplement pointé l'importance de l'Europe. Donc c'est peut-être ce qu'on peut retenir. Soyons positifs.
Vous n'êtes pas pour culpabiliser le citoyen, parce qu'on a beaucoup ça en ce moment de faire très attention à des petites choses. Vous allez directement vers les États ou vers les opportunités économiques. Est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut y aller ou c'est plus votre
credo? Non, il faut tout faire.
Oui.
Bon, disons...
Mais quelle est la proportion d'importance? C'est-à-dire que si les citoyens font beaucoup, les États ne devront pas faire grand-chose?
Oui, Allez, disons qu'en France, la façon dont on se déplace, la façon dont on se comporte chez soi, le domestique, la façon dont on s'alimente, c'est quand même 60% des émissions de gaz à effet de serre. Donc je veux dire par là que ce qu'on peut appeler les petits gestes, c'est important. Mais d'un autre côté, bon, vous pouvez prendre les transports en commun s'ils existent. Donc les collectivités locales ont une importance. Je pense aussi qu'il faut, il y a un dynamisme très important au niveau des ONG, des organisations non gouvernementales, de toutes les associations. C'est très très important et il faut aussi, bien sûr, me semble-t-il, que je dirais le tissu économique y trouve son compte. Et donc tout le monde est embarqué. Donc nous avons choisi, dans cette action, c'est plus dirigé vers les États. C'est important, mais faut surtout pas disons tout le monde doit. En gros, si on veut réussir cette transition, diviser par deux, pour rester en deçà de 1,5 degré par deux, nos émissions entre 2020 et 2030, il faudrait que tout le monde regarde dans la même direction. Et on en est loin.
Et en la même direction, c'est d'abord regardez votre livre « Finance, climat, réveillez-vous » paru aux éditions Indigènes. Vous faites le constat, vous apportez des solutions. Puis il y a des petits trucs croustillants, on se rend compte que François Mitterrand s'en tamponnait le coquillage de l'environnement, notamment à cause de Claude Allègre, qui lui a un peu bourré le mou, je vous résume. Et finalement, on s'est dit « heureusement que Chirac est arrivé ». Et ça, nous dire en plus « Chirac est arrivé, heureusement », ça remet en cause toutes mes évidences.
Et la planète brûle, voilà.
Oui. Exactement, bah, oui, ce fameux discours.
Non, je ne vais pas commenter trop, mais à partir de Jacques Chirac, il y a une certaine continuité dans la politique française. C'est Jacques Chirac qui a annoncé le facteur 4 de diminution à horizon 2050. Ça a été repris dans le Grenelle de l'environnement, repris par François Hollande et quand même repris par Emmanuel Macron, qui en a remis une couche en parlant de neutralité carbone à horizon 2050. Donc,
mais il avait peur pour les champs de houblon, certainement aussi.
Ouais,
mais c'est la fameuse phrase de Chirac, inspirée par Hulot, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, et qui se termine par « Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas pour les générations futures celui d'un crime de l'humanité contre la vie ». Jean Jouzel avec nous, prix Nobel. Oh, dis donc.
Dearly call her Nanny Gold to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, dearly call her Bellcat to make a pretty baby a Sunday hat. Won't you come to my house with black cat bones? Take my baby away from home. Over that photo, where has he been? Up to your house and gone again. Oh, diddly, oh, diddly, have you heard? My pretty baby said she was a bird.
Didley sur France Inter, il est 17h21 à Janzé, en Bretagne.
Voilà, merci Charline.
C'est là d'où vient Jean Jouzel, qui a commencé par s'intéresser à l'étude des grêlons pour se rapprocher de la Bretagne. Et voilà, ça a changé sa vie. Et voilà, comment on dérape.
Mais pas la vie
et
des grêlons, parce qu'il y en a toujours.
On dérape et puis un jour on est médaille d'or du CNRS et vice-président du GIEC qui reçoit le prix Nobel. Voilà, Jean Jouzel avec nous, qui publie « Finance, climat, réveillez-vous, les solutions sont là » aux éditions Indigènes, coécrit avec Pierre Laroutourou et Anne Hessel. Pour entourer Jean Jouzel, Alex.
Oui, on est prix Nobel et puis un jour on se retrouve entre Guillaume Meurice et Juliette Arnault. Hein, et Florence est ingrate et en face de Pablo Mira.
C'est une chance. L'information.
Je vais pas prendre les Français pour des canards sauvages.
Le journal de presque 17h17.
Ça va mon coin-coin.
Et on commence par les titres.
Le président chinois Xi Jinping a entamé ce matin le volet officiel de sa visite en France.
Oui, heureusement qu'il n'est pas venu samedi à Paris voir autant de jaunes qui manifestent contre le pouvoir en place. Ça lui aurait donné des pulsions meurtrières.
Justement, samedi à Nice, une femme de 73 ans a été grièvement blessée lors d'une manifestation à la suite d'une charge de la police.
Et oui, une retraitée qui se fait maltraiter, une belle allégorie de la politique d'Emmanuel Macron.
Et des brèves.
Oui, parce que les brèves restent debout malgré la charge que vous leur mettez régulièrement.
C'est vrai.
Et on commence par une éphéméride.
C'est la journée mondiale aujourd'hui de la procrastination.
De la procrastination, on a une pensée pour Emmanuel Macron qui ne cesse de reporter son apprentissage de l'empathie au lendemain.
Effectivement, car hier une militante d'attaque a été grièvement blessée.
Ouais, pour le coup, elle n'est plus trop d'attaque, si je peux me permettre.
Effectivement. Emmanuel Macron lui souhaite, je cite, un prompt rétablissement et une forme de sagesse à cette manifestante de 73 ans blessée à Nice.
Oui, par sagesse, il entend sans doute qu'elle aurait mieux fait, plutôt que de manifester, de passer un week-end au ski, comme tout le monde.
Mais il est gonflé quand même d'appeler à la sagesse quelqu'un qui a l'âge de sa mère en plus.
Oui, enfin techniquement, elle a l'âge de sa femme.
Gilets jaunes enfin, Gilets jaunes encore.
Je sais que c'est pas bien, mais...
Voilà. Jean-Luc Mélenchon a déclaré hier qu'il était plus que jamais fasciné par Éric Drouet.
Oui, alors ce qui est plus que jamais fascinant, c'est la propension de Jean-Luc Mélenchon à gratter des voix.
Pascal Canfin, le directeur général de WWF France sera le numéro 2 sur la liste La République En Marche pour les Européennes.
Et je crois qu'à La République En Marche, ils l'ont pris pour qu'enfin on parle un peu d'écologie.
Oh là là,
bien sûr.
Politique internationale. Hélène Rollès.
Mais oui, oui.
On va dîner avec Emmanuel Macron et Xi Jinping.
Et oui, et contre toute attente, elle figure au dîner officiel avec les chefs d'État, car la star de sitcom, du sitcom Hélène et les garçons rencontre un énorme succès en Chine. Écoutez la reprise par Joy Chua. Voilà. On espère qu'elle chante pas exactement Hélène, je m'appelle Hélène, puisqu'elle s'appelle Joy Chua.
Ukraine, un humoriste largement en tête des sondages pour la présidentielle.
On n'est pas à l'abri que Gad Elmaleh se présente aux prochaines élections en France avec le programme de ce gars-là.
International encore. C'est un Kenyan qui a été sacré meilleur enseignant du monde.
Et oui, malgré ça, Marion Maréchal Le Pen n'a pas l'intention de faire appel à lui pour son école à Lyon.
Revenons en France, justement, Brigitte Bardot présente des excuses dans un communiqué à l'AFP après ses insultes contre les Réunionnais.
Et oui, Brigitte Bardot, il vaut mieux qu'elle présente ses excuses plutôt que ses idées.
Économie, l'Office de répression des fraudes révèle que 12% des kiwis français sont en fait italiens.
Donc la France fait des efforts en matière d'accueil des migrants, malgré tout.
Et oui, des brèves.
Et des brèves, j'ai lu le courrier Picard, Beauvais 2. Il prend sa belle-mère pour un lapin et lui tire dessus.
Quoi ?
Bien sûr, bien sûr, et on va te croire.
Allez, la dernière.
La dernière, attention, petit jeu tous ensemble, essayez de découvrir cette discipline très sérieuse.
On va réussir à battre le record, on est décidé. 18 mètres, on va tenter, ouais. Un petit 20 mètres.
Crachat de noyau d'olive.
Ouais. Non, 18 mètres, 20 mètres, non.
Jean-José l'a dit, le LBD.
Non.
Bonne vanne.
Excellente vanne. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Deuxième indice.
Alors en fait, la technique, c'est de bien appuyer sur tous les plis pour que l'aérodynamique soit parfaite. Il faut un papier assez fin aussi, parce qu'on avait fait avec un papier un peu plus épais, c'est compliqué.
Les oiseaux en papier.
Le championnat de France de vol d'avion en papier.
C'est génial.
Enfin, en tout cas, monsieur Jouzel va être content parce que dans les compétitions de voltige aérienne, c'est clairement celle qui a le meilleur bilan carbone.
Le climatologue Jean Jouzel en notre compagnie. Et effectivement, Xi Jinping est à Paris. Et quand il aura refait le monde ce soir avec Hélène et les Macron, demain matin, le président chinois va rencontrer Angela Merkel, Jean-Claude Juncker et Manu, bien sûr. Bref, l'Europe va causer climat avec la Chine. Alors, comment trouver des points de convergence entre deux visions ? Déjà, depuis hier soir, il a fallu trouver comment le nouer, France-Chine, ce dialogue.
Écoutez, camarades, les Français morose, parce que les forces de la joie chez eux ne sont pas libérées. En Chine, au contraire, forces de la joie complètement libérées. Et le peuple, il chante, il danse même. Il faut que le peuple français fasse la même chose.
Eh bien, c'est une très bonne idée. La danse, le chant, la féerie collective. Ma tante Kiki, oiseau. On l'appelle ma petite.
Les Chinois à Paris, le film de Jean-Yann. Jean Jouzel, est-ce que c'est un gros enjeu, cette rencontre? Vous placez quelque espoir dans un dialogue entre Emmanuel Macron, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker d'un côté et le président chinois Xi Jinping de l'autre?
Oui, peut-être. Je ne vais pas donner trop de chiffres, ce n'est pas le type de l'émission, mais quand même. Si on parle du premier gaz à effet de serre, donc c'est ce qui nous cause les soucis par rapport au réchauffement climatique, disons-le, à chaque fois qu'on brûle du gaz, du pétrole, du charbon, qu'on fabrique du ciment, et qu'on brûle du bois, la déforestation également, mais disons, les Chinois sont responsables de 27% des émissions de gaz carbonique, et disons, qui jouent pour les trois quarts dans ces émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Ensuite, nous avons, les États-Unis avec 15%, l'Europe 10%, après, disons, l'Inde. Donc voilà, donc quand on regarde ceux qui seront réunis demain, il y a quand même 40% des émissions. Donc c'est important qu'ils s'inscrivent dans une vraie dynamique, alors que notre communauté scientifique, nous devons vraiment d'affirmer, le dernier rapport du GIEC a dit clairement, que si on veut limiter le réchauffement climatique, il faut agir tout de suite, de façon très forte, diviser par deux nos émissions entre 2020 et 2030, alors qu'elle continue d'augmenter entre cette année et l'année précédente, et en particulier à cause de la Chine. Donc c'est au cœur, la discussion avec la Chine est au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est très clair. Oui, c'est important.
Commerce et climat.
Route de la soie, et voilà.
Oui. Donc, si je comprends bien, un dialogue, par exemple, France-Chine ou Allemagne-Chine, il y a des pays qui ont de quoi peut-être donner quelques leçons à d'autres, puisque la Chine, c'est le grand méchant pollueur, mais c'est aussi un pays qui fait des efforts. Est-ce que c'est une vitrine, ces écocités en plein essor, ces villes alimentées par l'énergie solaire, géothermie, etc. C'est un petit peu pour faire vitrine et pas se laisser emmerder par l'Europe.
Oui, ça fait vitrine. Oui, c'est disons que l'énergie des États-Unis, c'est les trois quarts. De la Chine, c'est les trois quarts du charbon. Mais il y a une dynamique dans les énergies renouvelables qui est quand même tout à fait louable. Mais on est loin du compte, effectivement.
Non, moi, j'avais une question qui était à propos de la Chine. Quel pays aujourd'hui, quel groupe de pays peut vraiment peser dans un dialogue avec la Chine d'un point de vue géopolitique et être entendu?
Vous n'avez pas lu notre livre?
Ah non, je ne savais même pas qui vous étiez il y a 20 minutes. Hein.
Pour nous,
on m'avait dit c'est Benabar aujourd'hui, mais après je découvre
ça aurait
que
pu
c'est
Benabar que j'aime bien. Mais
non, je vous l'offrirai.
Non,
Pablo.
Justement, je pense que toute l'idée de ce livre, Finance Climat, réveillez-vous, c'est de mettre l'Europe au centre du jeu. Et c'est très clair que les États-Unis ils pourraient jouer un rôle très important, mais nous pensons avec Pierre Larotourou, Anne Hessel dans ce livre que l'Europe peut avoir un rôle important à jouer. C'est quand même la première puissance économique mondiale, mais c'est très difficile d'avoir une vraie dynamique européenne. Mais effectivement, je ne dis pas que l'Europe pourrait s'opposer à la Chine, mais il pourrait, disons, être dans cette compétition pour la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation, parce que je pense vraiment que si l'Europe s'y met, eh bien c'est un gage de dynamisme économique, de réussite. Il faudra faire cette transition et le premier pays qui la fera, le premier bloc, sera gagnant économiquement.
Un livre recommandé par Nicolas Hulot qui dit un livre essentiel car il a le mérite d'être concret et ça coûte 8 euros, donc vous pouvez y
cher.
Aller.
Ouais. C'est cher, c'est
Finance,
non,
chemin,
non, 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 justement,
si, bien sûr.
Je vous encourage à l'acheter, d'autant plus que les auteurs ne touchent rien. Donc voilà, nous avons fait don de notre...
Eh bien, Jean Jouzel, Anne Hessel, Pierre Larotourou, il est 17h30, l'heure de passer justement la parole à celui qui est...
Intelligence.
Il est scorpion ascendant poisson, donc aussi dangereux par sa piqûre que par son odeur. Voici Pablo Mira.
C'est mon corps.
Pablo, mon petit ange trapu. Ouais. Vous vous penchez aujourd'hui sur le scepticisme des Français à l'égard des vaccins.
Ouais, ma louloute. Près d'un Français sur cinq est contre la vaccination. Visiblement, quand un Français entend le mot vaccin, c'est comme un patron du CAC 40 qui entend « Bonjour, Élise Lucet, France 2, j'aimerais vous poser quelques questions ». Il est pas bien, le gars. Une méfiance légitime, car si la vaccination part d'un bon sentiment, c'est vrai, il suffit de réfléchir deux minutes pour comprendre que la vaccination est avant tout un acte raciste. Oui, se faire vacciner, c'est empêcher un virus migrant de s'installer chez nous, dans notre corps. Donc, quelque part, faire vacciner un enfant... c'est voter Marine Le Pen. Et en plus, c'est dangereux pour la santé. On sait notamment qu'il peut y avoir des effets secondaires hyper contraignants en cas de vaccination, tels que la guérison, qui oblige à aller travailler. sans parler du fait que ces traitements coûtent cher et donnent des migraines. Et moi, je le dis, voilà, je refuse d'injecter dans mes veines un produit qui a les mêmes effets que l'Eurovision. Bon, en même temps, c'est vrai, on évite aussi le vaccin par peur de la simple piqûre, hein. Faut pas se mentir. Mais ça, c'est une réaction plutôt logique, hein, de ne pas aimer les seringues, hein. Les gens ne sont ni sadomaso, ni Benoît Magimel. Puis pour ma part, vous savez, je suis traumatisé, je vous raconte, depuis l'enfance par les piqûres à cause d'un événement tragique qui m'est arrivé. Un jour, alors que je me promenais avec mon père dans la rue, on traversait la route au passage piéton, et là, une seringue a déboulé de nulle part et l'a renversée. Il est mort sur le coup, un an plus tard, d'un cancer.
Mais vous êtes sûr que c'était pas plutôt une voiture ?
Ah si, bien sûr que si, mais ça m'arrangeait pas de le dire dans mon édito. Okay. Mais de toute façon, ma louloute, oui, que cette méfiance soit logique ou non, il y a eu trop de scandales pharmaceutiques pour que les Français aient confiance aujourd'hui. Là, je pense à l'affaire entre autres du Levothyrox, hein, ce médicament qui provoque insomnie, vertige, perte de cheveux, puis avec la récente décision de justice déboutant les victimes qui provoque désormais une petite douleur anale en plus. Depuis, comme beaucoup de Français, les médocs, moi je le dis, je m'en méfie, hein. D'ailleurs, dans médicaments, il y a mensonge. Il y a aussi Mehdi, un prénom arabe, sans doute pas un hasard. Mais le plus fou dans cette affaire, c'est que malgré tous ces scandales, le lobby des pro-vaccins reste puissant, plus puissant que jamais, avec tous ces excités qui n'ont le mot vaccin à la bouche. Attendez, nos ancêtres les Gaulois, ils n'avaient pas de vaccin et ça ne les empêchait pas de mourir grand-père à 26 ans. Alors bien sûr, je ne nie pas que des gens meurent encore de certains virus, du tétanos par exemple. Mais là, c'est une infime poignée de personnes qui ont juste eu la mauvaise idée d'utiliser les toilettes d'un TER. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'à cause de ces lobbyistes, les médecins aujourd'hui n'ont même plus la liberté de choisir de ne pas vacciner leurs patients. Mais imaginez ça sur d'autres pathologies. Imaginez un médecin, par exemple, qui face à un grand brûlé, n'aurait plus la liberté de ne plus appliquer du Cicatril. C'est dément comme idée.
Bon, donc c'est pas mon meilleur argument aujourd'hui, mais à mon avis, ça passe. Charline est à 4 grammes, elle est encore en train de se googliser sur Internet. Quant à Guillaume, il va nous passer le pauvre. Il n'a pas la capacité de comprendre la moindre de mes phrases.
Et là, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Et puisque la confiance a été rompue, quand il tombe malade, de plus en plus de Français se tournent vers une médecine douce qu'on appelle le déni. Mais également, comme c'est mon cas, vers des médecines parallèles et asiatiques. Vous voyez, hein,
genre médecine chinoise, acupuncture qigong.
Non, pas vraiment. Plutôt médecine nord-coréenne, c'est-à-dire absence de médecine. Pour conclure, je le dis, respectez les gens qui sont contre les vaccins, car on n'en sait pas assez sur leur réel contenu au vaccin, leurs effets secondaires ou sur le poids des lobbies pharmaceutiques dans les campagnes de vaccination. Alors bien sûr, on pourrait le savoir, il suffirait de lire des articles expliquant que l'autisme et la sclérose en plaques, soi-disant générés par des vaccins, résultent en fait d'études bidons, que les effets secondaires sont extrêmement minoritaires en réalité. Mais c'est impossible, car pour ça, il faudrait que l'humanité soit vaccinée contre la paresse intellectuelle. Allez. Salut.
Pablo Mira, dans ses œuvres. Merci Pablo. C'est Jean Jouzel, le climatologue, qui est avec nous jusqu'à 18h.
Le soir, déplie ses voiles sombres, enveloppe. Les trottoirs et les bois. Et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés. Au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux, des perles aussi. fond de nous, l'étincelle. Dans le cas orageux, cet éclair dangereux, des rues silencieux.
Etienne Dao, l'étincelle, et on l'a bien senti, l'étincelle dans cette chanson. 17h37 sur France Inter, c'est Jean Jouzel qui est avec nous, le climatologue, qui publie avec Anne Hessel et Pierre Laroutourou un livre « Finance, climat, réveillez-vous, les solutions sont là ». On continue à en parler avec Jean Jouzel jusqu'à 18h. Tout va bien, Jean ?
Oui, ça va, merci, c'est très sympa.
Jean, ça va mieux qu'Etienne Dao, Jean ?
Ouais.
Jean, lanceur d'alerte, tout comme Guillaume Meurice dans son
oui.
œuvre.
Moi, je vais vous parler des conclusions du grand débat national, parce que ce qui en ressort, c'est notamment un manque de prise en compte des régions. C'est vrai qu'on est tous très centralisés sur Paris, même nous, là. Il n'y a que Pablo qui est né à Paris, avec les séquelles qu'on connaît, d'ailleurs. Ses ex l'appellent le diesel. Charline l'appelle mon petit Quasimodo. Ça saute de blague en calembour. Il est mignon. Alors, nous, sinon, il y a de tout. Enfin, il y a des Belges. Moi, je suis né en Bourgogne. J'ai grandi en Franche-Comté. Notre invité est né à Janzé. On l'a dit tout à l'heure. Jean Jouzel à Janzé. Les amateurs de Bobby Lapointe se régalent.
C'est vrai.
C'est vrai. Mais il faut reconnaître que tout tourne, voilà, souvent et trop autour de Paris. Alors, je suis allé à la rencontre des régions lors d'un grand rassemblement vin et terroir pour une meilleure mise en lumière. C'est nos régions ont du talent, j'ai envie de dire. C'est ma chronique Jean-Pierre Pernaud du jour. On commence avec la Bourgogne. Comment y sont les Bourguignons ?
C'est surtout les Bourguignonnes qui nous intéressent.
Ah, comment elles sont les Bourguignonnes ?
Ah ben les Bourguignonnes, elles sont joyeuses, festives, bien en chair.
Elles sont bien en chair, les Bourguignonnes.
Ah oui, oui, ben le vin, on dit toujours que le vin, ça apporte beaucoup de calories, alors donc c'est peut-être lié. Hein.
Bon, ben Juliette serait un contre-exemple alors, hein, retrouver ses secrets minceurs dans sa nouvelle revue Jeune et Chablis, chez tous vos marchands de journaux. Bon, en tout cas, voilà pour la Bourgogne, je crois que j'ai été assez complet. Je suis obligé d'aller vite, hein, sur chaque région, il y en a beaucoup. Ah, puis je veux un panel représentatif, hein. C'est l'objectivité, c'est ce qui me caractérise. Alors enchaînons avec le Midi de la France. Comment y sont les habitants ?
Alors, je crois que dans le Midi, finalement, les gens aiment bien vivre entre soi. L'étranger, comme ils les appellent, l'étranger, ils les aiment pas toujours.
Ça donne pas envie de vous rendre visite alors ?
Non, parce que par ailleurs, ce sont des personnes qui sont authentiques. Ils sont directs.
Ils sont xénophobes, mais directs.
Ils sont directs, chaleureux.
Voilà, chaleureux. Robert Ménard, par exemple, il habite dans le Midi. Eh ben, il est très direct, très chaleureux. Il fait des soirées crêpes au sarrasin. Bon, quand il parle de sarrasin, il parle pas de la farine. Mais c'est chaleureux. Allez, on continue avec les montagnes de France. Comment y sont les habitants ?
Plus on monte en altitude, plus les gens sont froids.
Bah, pourtant, si on fait l'effort de monter jusqu'à eux, ils pourraient être un peu sympas, non ?
Je veux dire, ils sont réservés. C'est pas l'émotion tout de suite débordante. Elle vient, mais... disons avec réflexion.
C'est de l'émotion réfléchie, quoi.
Oui, je pense.
Oui, ils prennent le temps de savoir s'ils vont avoir une émotion. Ça, c'est important et c'est comme ça qu'on sait que Marlène Schiappa ne vient pas de la montagne, par exemple. Hein, elle a une émotion, elle se dit « Oh là là, ça fait un quart d'heure que j'ai pas dit une connerie !» Paf, elle panique, elle tweet. Voilà. Ok ? Donc, elle vient pas de la montagne. Allez, on continue notre petit tour de France avec l'Alsace.
On est têtu, on sait ce qu'on veut et on dit ce qu'on pense. Hein. Donc, voilà, des personnages vrais.
Il n'y a pas d'hypocrisie en Alsace ?
Beaucoup.
Ah si, quand même.
Si, on a quand même, mais bien sûr, mais on est des gens sincères, voilà.
Disons que dans l'hypocrisie, vous êtes franc et sincère, quoi.
Voilà.
Voilà, une belle hypocrisie, franche et sincère. Matt Pokora est alsacien, par exemple, on le sait, il jouait dans la comédie musicale Robin des Bois, à 150€ la place. C'est hypocrite, mais en même temps, c'est sincère. Ça, il vole aux pauvres pour donner aux riches. Hein. S'il y a une comédie musicale sur Édouard Philippe, il se positionne directement. Allez, on va prendre un peu plus de risques. Tour de France, je suis allé voir les Corses, ils sont comment ?
Gentils. Faut pas qu'on les emmerde, c'est tout.
Gentil, mais faut pas les emmerder.
Passer ça à la radio, mais faut surtout pas les emmerder.
Qu'est-ce qui se passe si on les emmerde un peu.
Rien du tout.
Il fait peur un peu, c'est rien du tout.
On aura l'envie de pas revenir.
Ok, ok. Alors j'aurais pu continuer à l'emmerder, mais je vous rappelle que j'ai pas le temps. Ah, je dois faire le tour des régions, sinon je l'aurais fait. Moi, j'adore la plongée sous-marine. Et encore, s'ils en font les deux pieds dans une dalle de béton, pareil, c'est quand même super sympa. Bon, me dites pas que je suis lâche parce que je suis allé voir des Basques. Hein, des Basques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'intégrer au Pays Basque?
Il faut manger basque et la culture basque, la musique et le rugby.
Et le quoi?
Et le rugby.
Ah, le rugby.
Voilà.
Comment vous dites?
Le rugby.
Non, vous dites pas toutes les
consonnes. Le rugby, le ketchup, les trucs comme ça.
Le ketchup?
Le ketchup, ouais.
Le ketchup et le rugby, ouais. Alors, je sais pas pourquoi on s'emmerderait à prononcer toutes les lettres, hein, de la phrase. D'ailleurs, plus on descend dans le sud-ouest, moins on prononce les lettres, hein. Je vous rappelle que Jean Lassalle fait une carrière politique avec deux voyelles et trois consonnes. C'est quand même remarquable. Allez, il est quand même temps de conclure avec un vrai Parisien. On conclut à Paris. Il est d'où?
À Paris 16e.
Quels sont les défauts des Parisiens?
Ils en ont plein.
Ouais.
Orgueil. Après moi, le déluge.
C'est-à-dire que vous êtes comme ça un peu?
Absolument pas, non.
Voilà, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, j'espère que j'ai bien rendu hommage à la France,
oui,
là.
Oui, oui.
Hein, on est bon, voilà, hommage au grand débat national. C'est vrai qu'elle est belle, la France. Elle est, comme dirait Brassens, elle a un seul défaut, c'est d'être habitée.
Merci Guillaume Meurice. Après moi le déluge, c'est tout ce qu'on essayait d'éviter avec Jean Jouzel que nous avons invité aujourd'hui. Des élèves de terminale qui n'ont pas le souvenir d'avoir été sensibilisés aux enjeux climatiques pendant leur scolarité. Des enseignants qui sentent qu'ils ont un rôle à jouer et puis qui se sentent responsables mais démunis parce que le climat est trop peu enseigné alors qu'ils relèvent autant des SVT que de l'économie, l'histoire géo ou la philosophie ou encore d'autres techniques plus prosaïques.
Voilà, donc on peut s'en passer des serviettes hygiéniques. Et comment on peut s'en passer? Ben en fait, tout simplement parce que le vagin, c'est un muscle et on peut le contracter, voilà, au même titre que la vessie.
La vessie est un muscle? Je suis pas sûr.
Si, c'est un muscle, Victor.
Je crois pas, non.
Ben, si.
Alors, je suis allé à l'école et c'est pas ce qu'on nous apprend. Hein.
Ah, tu veux parler de ce truc qui reproduit les inégalités et qui diffuse la culture bourgeoise?
Non, juste l'endroit où on apprend.
On apprend la culture des élites.
Problemos, le film d'Éric Judor. Jean Jouzel, en Europe, on voit bien que les élèves n'ont pas besoin de cours pour aller manifester pour le climat. Mais est-ce que ça vous semble néanmoins indispensable, des cours à l'école? C'est notamment une pleine page parue dans Le Monde ce week-end.
Oui, bien sûr que c'est indispensable. Pour moi-même, j'y suis très attaché, oui. Les titres comme ceux du Monde, de l'école, l'université, le climat trop peu enseigné, ou... Oui. Disons, je n'ai pas le souvenir d'avoir été sensibilisé aux enjeux climatiques. Ce sont des,
ça, c'est dingue.
Ils ont des cris d'alarme très clairs. Oui, la situation est vraiment, je ne dis pas dramatique, mais elle mérite vraiment d'être améliorée et j'espère qu'elle le sera. Donc, ma collègue Valérie Masson-Delmotte a, disons, envoyé un cri d'alarme en disant que c'était trop peu. C'est trop peu à la fois dans le, disons, dans le primaire et dans le primaire et dans le au collège, mais c'est trop peu aussi dans le lycée actuellement. Enfin, on est parti vers, disons, alors il y a ces majeurs qui vont être prises en seconde, il n'y a pas grand-chose. Les majeurs prises en première, donc si vous faites sciences de vie de la Terre, SVT, comme vous avez dit, Charline, effectivement, il y aura, nous espérons, du climat. Ce sera peut-être mieux en terminale, puisqu'il y a le tronc commun où on espère vraiment avoir, mais c'est toujours en cours de discussion, disons, une part de climat, hein, disons, par exemple.
Mais ce serait bien de ne pas attendre la terminale pour être
exactement,
pour être sensibilisé.
Et ça serait bien aussi de continuer après la terminale, parce qu'il y a aussi de grandes faiblesses dans nos écoles et dans les universités. Donc, je pense, oui, ça serait bien. Donc, on est tous, donc il y a des initiatives, par exemple, la main à la pâte, et là, la création par Pierre Léna de l'Office pour l'éducation au climat, qui est justement dirigé ce qu'il manque, justement, quand on va parler du primaire et du collège, ce sont des... Mais c'est vrai aussi pour le lycée, c'est la formation des enseignants. Et ça, c'est... Les enseignants ne sont pas formés, donc il faut aussi former les enseignants. Il faut faire il faut faire ce double travail, former les enseignants.
Parce que ça touche
à ces enseignants. Oui, ça touche vraiment à toutes les disciplines.
Et on comprend dans votre livre, d'ailleurs, c'est à la fois économique, enfin beaucoup économique, même philosophique.
Oui, bien sûr.
Est-ce que autour de cette table, vous avez souvenir d'un professeur qui vous aurait sensibilisé à des choses de l'environnement?
Non, mais je pense qu'à l'époque, c'était pas une problématique qui était aussi alarmante qu'aujourd'hui, au fait.
Alors,
il y avait
moi,
des questions civiques un peu, mais c'est ce qui s'en rapprochait.
Charline, alors.
Ouais, ben oui, parce que moi, ben je voudrais rendre hommage à mon professeur de physique. Ouais. C'était la quatrième secondaire, donc en France, ça doit être la deuxième, quelque chose comme ça, deuxième, troisième. Ouais. Et c'est un professeur de physique qui nous a expliqué un jour, mais comme ça, ex nihilo, je dirais, que dans ma ville, c'était ouvert un parc à conteneurs. C'était il y a 27 ans maintenant. Ouais. Et qu'on pouvait trier tous ces déchets. Et pour nous, c'était nouveau. Donc, on l'a pris comme un jeu. Et on est tous rentrés, tous ces élèves, on est rentrés à la maison. On a dit à nos parents, bah, aujourd'hui, on peut trier les bouteilles. Si le cul de la bouteille en plastique, il a un rond ou un trait, c'est deux types de PVC différents. On peut, voilà. Et tous les élèves de l'école, avec leurs parents, depuis 27 ans maintenant, vont trier. Et donc, c'est tout con parce que ça a pris 10 minutes d'explication. Et depuis 27 ans, je trie tous mes déchets et ma famille aussi. Donc,
très bien. Donc,
c'est
tout bête, non? Mais il y a beaucoup à faire, donc, très sérieusement sur ce problème.
J'ai oublié son nom. Vous disiez, Jean-Joseph?
Non, il y a beaucoup à faire. Donc, il y a aussi à faire vers les lycées techniques. Par exemple, on oublie qu'il n'y a pas que l'enseignement général. Et, disons, tous les élèves des lycées techniques, c'est aussi au cœur, probablement, pour certains de leur métier. Parce que, justement, que nous disons dans ce livre, c'est que si nous réussissons la transition énergétique au niveau de l'Europe, il faut de l'argent, mais c'est aussi à la clé beaucoup de création d'emplois. On parle de 600 000 à 900 000 créations d'emplois dans ces domaines de lutte contre le réchauffement climatique, d'adaptation, 6 millions d'emplois au niveau de l'Europe. Et bien sûr, ces jeunes, ils doivent être formés et doivent être, on espère qu'ils soient déjà sensibilisés à l'école, que ce soit au lycée ou bien dans général ou technologique. C'est clair
et
que c'est important.
Et on comprend bien que c'est un beau projet qui peut unir tous les Européens. On cherche tant de choses en commun entre Européens.
Il n'y en a pas beaucoup actuellement.
Culture, c'est difficile, pourquoi pas l'environnement et le climat qui nous permettrait à tous les Européens de regarder dans la même direction, comme vous disiez. C'est l'objet de votre livre, Réveillez-vous, les solutions sont là, paru aux éditions Indigènes. De livre, Jean Jouzel, il en est question aussi, à chaque fois qu'elle vient dans cette émission, c'est Juliette Arnoux.
Alors, en exergue du livre dont je vais vous parler aujourd'hui, un dialogue. Le lecteur dit « Ce n'est pas Renoir que vous nous présentez, c'est votre propre conception de Renoir ». L'auteur répond « Bien sûr ». L'histoire est un genre essentiellement subjectif. Le lecteur, c'est moi, enfin ça vient d'être moi, j'espère que ce sera vous. L'auteur, et c'est pour ça que c'est subjectif, c'est un immense réalisateur français, Jean Renoir, entre autres La règle du jeu, La grande illusion, qui ici ne s'intéresse absolument pas au cinéma, ni le sien, ni celui des autres. Ici, son sujet, c'est son père, Pierre-Auguste, et c'est pour ça que c'est subjectif, Pierre-Auguste Renoir, le peintre, d'où le titre du livre, Pierre-Auguste Renoir, virgule, mon père. En sus de ses propres souvenirs, Jean Renoir s'appuie sur une période où il a beaucoup passé de temps avec son père. C'était juste avant que son père meure, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Jean Renoir est parti comme soldat, il a été salement blessé à une guibole et il revient. Et là, sa maman est déjà morte et il a le temps de passer beaucoup de temps avec son père puisque lui est estropié et son père se met à beaucoup lui parler. Jean Renoir s'est retrouvé orphelin donc très tôt, juste à la sortie de la guerre, 1919. Il a à peine 25 ans. Ça l'empêche pas de faire un gros bouquin, riche, dense, touffu, sur un type, son père, qui faisait de la peinture heureuse. Alors il paraît que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Certes, ceci posé, lorsque William Scheller murmure qu'il veut être un homme heureux, nous tous, on se dit plus ou moins intérieurement « Ouais putain, moi aussi ». Eh bien, voici le livre d'un homme heureux, d'un grand peintre heureux. On est très très loin du modèle super triste façon Van Gogh ou Modigliani. Et plus largement, ce livre est le tableau d'une famille où on a envie de vivre. Oui, un des plus grands artistes français vivait en paix. Pourquoi ? Comment ? Eh bien, on va le comprendre avec une phrase symptomatique du livre. Lorsque Pierre-Auguste est parti avec sa famille vivre dans le sud de la France, à Cagnes-sur-Mer, pour moins souffrir de ses rhumatismes qui étaient en train de le paralyser puis qui finiront par le tuer... Son fils, Jean Renoir, écrit ça. L'histoire de Cagnes et de Renoir est une histoire d'amour. Et comme toutes les histoires de Renoir, c'est une histoire sans incident. C'est pas que sa vie de peintre fut plus facile que les autres. Hein. Les impressionnistes, son crew, n'ont pas toujours eu bonne presse. Il devra d'ailleurs attendre la quarantaine passée pour vivre de son art. Et avant, Pierre-Auguste, il aura renoncé délibérément à très 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 bien gagner sa vie comme artisan dans la porcelaine. Voilà les leçons de bonheur que j'ai retenues de ce bouquin et les raisons pour lesquelles, à mon avis... Pierre-Auguste était un homme heureux. D'abord, c'était un peintre qui se méfiait de la lumière électrique. Voilà. Et qui observait d'abord et avant tout les mains des gens parce qu'il avait une méfiance pour les purs esprits. Il disait que quelqu'un qui ne se sert que de sa tête ne l'intéressait pas. Donc il regardait les mains et comment les gens les utilisaient. C'était un peintre qui considérait les autres et le monde comme, et je cite son fils, un réservoir de motifs créé à son intention. Oui, alors comme ça, ça a l'air redoutablement égocentrique. Sauf que dans le même temps, Pierre-Auguste, il a passé son temps à observer les autres, sa société, et il se privait pas de penser pour les autres. Ainsi, quand il vilipendait les architectes du nouveau Paris de l'ère industrielle, les Haussmann, les Viollet-le-Duc, il regardait Paris qui était défiguré selon lui, il disait « Ah oui, c'est laid, mais c'est confortable. On y manque d'air, mais ils s'en fichent, puisqu'ils ont des propriétés à la campagne et la banlieue. Les endroits où ils osent loger leurs ouvriers, quelle honte. » Vous imaginez ça? En 1919, c'est ce qu'il racontait à son fiston. C'était aussi un peintre qui s'épanouissait au physique comme au moral dans la compagnie des femmes. Sa femme, les servantes et les modèles. Ah, les modèles et le goût de Renoir pour les grenouilles. Alors qu'est-ce que c'est une grenouille? C'est une fille libre qui change d'amant facilement, se passant une fantaisie quand ça lui dit, et des bonnes filles selon lui. Lui, il se réjouit tout le temps de leur bavardage, il les traite de dindes, de bécasses et de gourdes, il les menace de sa canne et elles se tordent de rire. Un truc rigolo, Jean Renoir précise que selon lui, son père n'a jamais trompé sa femme. Et il dit aussi, il est bon de répéter que Renoir était normal jusque dans sa vie sexuelle. Un peintre forcément solitaire, mais aussi en bande. Son amitié indéfectible avec Cézanne, dont il était un des rares à précocement saisir et le talent et la puissance. Ou encore avec Maupassant, plus rigolo, même si Maupassant voit tout en noir, alors que lui, Jean Renoir, voit tout en rose. Un peintre qui, même vieux, ne craint pas les jeunes et qui écrit « Comme on est enthousiaste à 20 ans, pourquoi faut-il qu'on devienne des messieurs à chapeau haute forme et des dames à corset ?» La lecture de ce livre te file l'enthousiasme sans avoir 20 ans, parole de femme sans corset. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, c'est paru en poche. Hein,
c'est paru en poche parce que le bouquin date de 1962, donc ça coûte pas cher. Ça s'appelle Pierre-Auguste Renoir, mon père.
Merci Juliette, et de peinture heureuse, passons à l'écologie heureuse. Car elle peut nous rendre heureux, alors pour l'instant, elle nous angoisse. Elle paraît parfois punitive, exigeante, voire peu confortable, comme les toilettes sèches. Comment prouver aux sceptiques que l'écologie peut nous rendre heureux sans nous faire flipper en nous rappelant qu'on va tous crever? Ben là aussi, chacun à son échelle peut y aller de ses petites astuces.
On doit tous changer nos habitudes. Nous, on privilégie la production raisonnée et les circuits courts.
J'utilise que des bons produits. Hein.
C'est ainsi que les polyphosphates de Patouflet sont produits à moins de 30 km de sa ferme. Ces engrais au sulfate d'ammoniac viennent d'un petit laboratoire local tenu par des chimistes passionnés. Ces pesticides organochlorés sont certifiés AOP Groland du côté. Quant à son glyphosate, il est fait maison par Madame Glandion elle-même. Une nouvelle façon responsable de concevoir l'agriculture pour un avenir meilleur.
Et crevez bio, c'est Groland. Georges Houzel, les discours sur l'écologie, et c'est vrai quand on commence à lire votre ouvrage, on est flippé parce que les discours sur l'écologie sont toujours, bien sûr, alarmistes à raison, anxiogènes. Mais est-ce qu'on peut aussi en parler de façon positive, voire joyeuse, comme c'est le cas dans les journaux satiriques Charlie, Ciné, La Gueule Ouverte, les Cavana, les Volinsky, les Réserves, ont toujours parlé d'écologie et milité de façon rigolarde?
Oui, on peut parler de l'écologie de façon heureuse. Je pense que, par exemple, enfin, disons que ce que nous appelons nos vœux en termes de protection de l'environnement, de protection de notre climat, d'adaptation, ce sont des... Bien sûr, c'est un changement de mode de vie, il faut faire attention. On parle dans cet... Enfin, j'ai lu qu'on parlait maintenant de sobérisation, c'est un nouveau mot. Mais
devenir de plus en plus sobre.
Voilà,
dans
disons, la sobriété peut être quelque chose d'indispensable, certainement, si on veut lutter contre le réchauffement climatique. Bien sûr, l'efficacité énergétique, il y a plein de... Mais je crois que c'est une société qui reste attractive pour les jeunes. Par exemple, en fait, ce qu'on demande aux jeunes d'aujourd'hui, ce qu'on aimerait, on ne demande pas, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils changent, en gros, qu'ils ne continuent pas à vivre sur le mode de vie que ma génération, nous avons emprunté. Et justement...
Mais on voit ces jeunes dans les manifestations, tous les slogans sont très rigolos.
Oui, eh bien, je pense que c'est très bien, parce que, disons, cette société vers laquelle nous devrions aller, c'est leur société, et je crois que, réaliser cette transition, si j'étais jeune, je m'impliquerais très fortement, je le fais à mon niveau, mais...
Vous êtes jeune,
disons,
genre.
Ouais, d'accord, merci, oui, merci Alex, merci. Merci Alex. Non, je veux dire, une transition difficile, mais il y a beaucoup d'opportunités. C'est ça que je veux dire. Aussi bien, je fais souvent des conférences dans le monde agricole et tout. Il y a des opportunités, effectivement. Je crois que chaque secteur d'activité doit intégrer cette transition dans sa dynamique et le prendre, effectivement, l'intégrer.
La vision positive est possible. Et la transition heureuse aussi, puisque nous allons vers un sketch, Jean Jouzel.
Ah, la chance, un prix Nobel.
Et, oui, et attention, et ouais, vous allez jouer Xi Jinping. On s'est dit, tant qu'à faire. Parce qu'il y a un petit dîner qui est prévu à l'Elysée, avec pas n'importe qui, il y a de la vedette. Il y aura un parrain, Fabius, Robert Rue, Alain Delon, Jean-Michel Jarre, Gongli, mais Hélène, de Hélène et les garçons. Alors, Alors on va faire un petit épisode. On est les garçons. Je suis Alain Delon, Guillaume est Emmanuel Macron. Vous êtes Xi Jinping. Et Hélène, c'est évidemment Charline.
Soyez le bienvenu, monsieur Jinping.
Mais où Hélène ?
Alors, permettez-moi d'abord que je vous présente Jean-Pierre Raffarin.
Mais je m'en fous de Raffarin, mais où est Hélène ?
Alors, attendez, elle va pas tarder. En attendant, alors, voici Alain Delon.
Le président chinois est très heureux de rencontrer Alain Delon.
Mais je m'en fous aussi d'Alain Delon, mais où est Hélène ?
Je suis là, monsieur Looping.
Looping, oh là là, elle est marrante, je vous adore, Charline.
Merci, vous me flattez. C'est Hélène, hein ?
Je sais. Ah, venez donc vous asseoir à ma table, chère Hélène.
Avec plaisir, mon Jeannot. Je meurs d'envie de goûter votre rouleau de printemps.
Oui, mais est-ce que vous parlez le mandarin ?
Non, je suis très motivée pour apprendre la langue.
Alain Delon peut donner des cours de langue.
Alors, Laurent Fabius est là également ?
Ouais, je m'en fous de Laurent Fabius. Ah, si je dis ça, il ne me croira pas.
Oui, vous aussi, oui, tout le monde s'en fout de Laurent Fabius.
Hélène, si vous ne chantiez quelque chose avec votre guitare.
Bonne idée, je vais vous attraper le manche.
Alors, Robert Rue est impatient de vous rencontrer, monsieur Jinping.
Qui ça ?
Robert Rue, un ex-dirigeant du Parti communiste qui maintenant me soutient.
Ah oui, mais chez moi, on ne l'aurait pas invité au banquet, on l'aurait servi au menu.
Alain Delon, lui, a toujours été fidèle à ses convictions.
Oh, rien à faire, je préfère Hélène.
Monsieur Zapping, si vous saviez comme j'ai envie.
Jinping, appelez-moi Jinping.
Je m'appelle monsieur Jinping. On me fait signe que Jean-Michel Jarre est arrivé.
Est-ce qu'il a déjà fait la première partie de Dorothée ?
Oui.
Je sais bien, ma petite Hélène, pour moi, vous êtes la nouvelle Édith Piaf.
Alain Delon a tout appris à Édith Piaf.
Bon, quelle est la suite du programme ?
Alors, demain, nous rencontrons Madame Merkel et Monsieur Juncker.
Mais eux aussi ont joué dans Hélène et les garçons ?
Non, c'est Angela et Jean-Claude, pas Johanna et Cricri.
Alain Delon a joué dans Rocco et ses frères.
Non, mais il s'en fout, voilà, il veut Hélène, de toute façon.
Qui me veut ?
Oui.
Qui me veut ?
Vous êtes plus belle que Gong Li.
Oh oui,
qui est très belle d'ailleurs.
Si, sonnez le gong, je suis dans votre lit.
Oh, après tout, si ça peut aider à signer les contrats.
Moi, je crois que j'ai une ouverture avec Jeannot.
Bah, dis donc.
J'ai une ouverture avec un prix Nobel, ça y est. Merci Jean-Joseph.
Merci à vous.
Vous voyez, c'était joyeux. C'était une transition joyeuse et ensuite. Ouais, ensuite, la transition écologique joyeuse aussi. Alors, bien sûr, consciente, avec finance, climat, réveillez-vous. Les solutions sont là, écrit par Anne Hessel, Jean Jouzel et Pierre Laroutourou, paru aux éditions Indigènes. Et ça coûte que 8 euros. Ça, vous allez le retenir, je sais déjà. Merci Jean Jouzel, climatologue, médaille d'or du CNRS, prix Nobel.
Acteur maintenant.
Et on laisse le mot de la fin à la transition heureuse de Frédéric Fromet.
De toute façon, faut pas rêver, on va tous crever.